Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Cette parole que Moïse va adresser au pharaon d'Égypte, l'invitant à laisser aller ce peuple hébreu vers la terre promise, se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 7 et au verset 16. Il me semble que ces paroles peuvent résonner à nouveau dans nos esprits en lien avec les événements et le contexte que nous sommes en train de traverser par l'apparition et le développement de cette pandémie du Covid-19. Elle peut prendre ainsi un relief et un sens approprié pour nous dans cette période particulière. Ces événements ont obligatoirement un impact, une résonance particulière dans notre relation à Dieu, mais la relation que nous avons aussi avec nous-mêmes, aux autres et au monde d'une manière plus générale. Ils peuvent provoquer de l'angoisse ou réveiller des peurs enfouies en nous, susciter toutes sortes de questions existentielles. Ils mettent en évidence notre vulnérabilité et la fragilité de notre condition humaine. Dans cette période, nous découvrons ou envisageons déjà une nouvelle manière de vivre qu'il faudra peut-être apprendre, non seulement dès maintenant, mais aussi pour plus tard. Il y aura très probablement un avant et un après coronavirus. Nous ne sortirons pas les mêmes après cette pandémie. Le monde aura changé et nous ne serons plus les mêmes. Présentement, nous sommes privés de certaines libertés, de toutes sortes de choses, de biens, de services, de loisirs dont nous pouvions jouir librement, de sorties, de distractions de tous ordres, de centres d'intérêt divers, qu'ils soient sportifs, culturels ou autres. Nous sommes également limités dans la consommation de certains produits. Les systèmes de toutes sortes, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels ou autres, mis en place par les hommes et notre civilisation, sont grandement menacés par un tout petit virus qui est en train de tout dérégler. Et il semble pouvoir à lui seul mettre bien des choses à mal et notre monde en grande difficulté. À titre personnel, j'ai ressenti ces derniers jours une grande paix m'envahir parce que ma perception, la perception qui a été la mienne à ce moment-là, était celle de la souveraineté divine au sein d'un chaos possible et naissant. Notre Dieu règne plus que jamais. C'est une parole d'actualité et ça me rappelle un chant qu'il y a bien des années en arrière, c'était le chant-thème d'une grande convention nationale dans un grand pays loin de la France, et le chant-titre de cette conférence, de ce congrès, était celui-ci: notre Dieu tout-puissant règne. Quand je parle de bienveillance, il s'agit de voir, d'observer que Dieu garde le contrôle sur le monde et sur son histoire. D'ailleurs, la fin de la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, se termine ainsi: « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. » Dieu accomplit un plan souverain de salut pour l'humanité et il le mènera à son terme. C'est ce que signifie la souveraineté divine. Nous sommes appelés en face de cela à être confiants et en même temps humbles. Il est vrai en même temps que Dieu et les croyants semblent être la cible facile pour beaucoup de gens. on le rend responsable de tout ce qui arrive. Pour ma part, je dois dire que Dieu n'est certainement pas responsable de tout ce qui arrive. Je crois que Dieu permet ce qui arrive, mais il reste irrémédiablement le Dieu d'amour, compatissant, riche en bonté, lent à la colère, celui dont la bienveillance dure à toujours. Et je rajouterai que la souffrance est souvent, malheureusement, le seul moyen par lequel la voix de Dieu se fait entendre. Elle semble être comme le mégaphone de Dieu. Dieu reste et restera le créateur de toutes choses. Mais en créant, il nous faut penser que Dieu a établi une alliance avec sa créature, avec l'être humain, de manière à ce que nous puissions être librement en relation avec lui. Car l'alliance, telle que la Bible nous la présente, et la Bible est un livre d'alliance, au pluriel d'ailleurs, cette alliance permet donc la rencontre du divin et de l'humain sur une base sûre, protectrice, salvatrice, sécurisante. Sans cette alliance, nous risquerions d'être écrasés par le divin et dans notre rencontre avec lui. Dans l'Écriture, toute relation ou rencontre avec Dieu ne se conçoit que dans le cadre d'une alliance. Alors la question se pose, mais où donc est le problème pour l'homme, pour l'humanité? Eh bien, ce problème peut résider dans une sorte de mépris, ou quand je dis une sorte, mais un mépris évident de la part de l'être humain de ce qui appartient à Dieu. Dans le texte de l'Exode que nous avons lu en introduction, Pharaon, dans le sentiment de toute puissance qui l'anime, méprise en tout point le culte voué à l'Éternel et que les Hébreux sont invités à offrir. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ou m'adore. » Le souci divin, c'est d'établir une nouvelle alliance avec les hommes pour leur permettre d'entrer dans une relation véritable, bénissante, salvatrice par rapport au mal et par rapport au péché. L'homme méprise les limites qui lui sont imparties. Il méprise la souveraineté divine, la sainteté divine, la sagesse divine. Ce mépris le conduit au chaos, et c'est ce mépris, malheureusement, qui est au cœur même de l'homme, de l'être humain. Revenons à notre texte de départ. Lorsque Moïse, de la part de l'Éternel, dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, m'adore ou me rende un culte. » Une injonction de plus en plus ferme va être faite à Pharaon pour laisser aller ce peuple, rendre le culte qui doit être rendu à l'Éternel. Mais pour le peuple de Dieu, et on peut rajouter, pour nous aujourd'hui l'Église, c'est une invitation également à aller au désert pour adorer et pour rendre un culte à l'Éternel. Et peut-être cette période de confinement peut contribuer à ce que nous redécouvrions, ou alors nous soyons amenés à découvrir une dimension nouvelle de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu et de la connaissance de ses voies, de ses plans, de sa personne. Ainsi, je dirais que notre culte est appelé à devenir plus intentionnel, alors que nous sommes privés de biens, des appuis, des facilités, d'un bâtiment, d'église par exemple, de réunion, la facilité de nous rendre à l'église en tant que bâtiment, de bénéficier de cultes, de rencontres diverses, préparées, répondant à divers besoins, et d'un système dans le fond qui tourne, mais peut devenir répétitif et routinier. D'où le mot que j'ai employé, un culte qui soit intentionnel, Donc, ça nous sort de la facilité et certainement que ce caractère intentionnel, c'est quelque chose que nous avons à développer. Alors, profitons-en et faisons-le. Il y a des choses formidables qui vont certainement monter dans notre cœur de la part de l'Éternel. Je pense que comme tout autour de nous fait silence, on entend les oiseaux chanter plus que jamais, la nature est silencieuse, l'environnement est silencieux, et ça nous permet, j'en suis persuadé, d'exercer une oreille et une écoute beaucoup plus fine à la voix de Dieu. Nous ressemblons quelque part, bien sûr, à ce peuple d'Israël qui va se retrouver dans le désert, dans un environnement nouveau et déconcertant. Il a perdu ses appuis, ses repères, il est sans nourriture, sans ressources, sans eau, sans ombre par rapport au soleil brûlant du désert. Il a quitté la stabilité qu'il connaissait, même dans la souffrance qui était la sienne, et la sécurité de l'Égypte. Parce que cela faisait partie d'un monde connu qui était et que ce peuple hébreu pouvait facilement appréhender, alors que maintenant il se trouve dans l'incertitude et dans l'inconnu. Le désert, c'est bien sûr le lieu du test, un petit peu comme lorsque il nous est dit que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus au désert pendant 40 jours. Dans le désert, nous n'avons pas toutes les aisances et les facilités que nous avions, et c'est un lieu de danger potentiel. Aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, ces dangers peuvent être représentés par des difficultés économiques, des emplois qui sont menacés, des faillites d'entreprises, de commerces et d'autres choses encore en perspective, avec des conséquences sur le plan social, familial, des fragilités qui peuvent provoquer des ruptures parfois irrémédiables. La saison des défis que nous traversons, c'est un repositionnement de toutes nos relations qui se présentent à nous. Nous l'avons dit tout à l'heure, relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres, parce que ce sont les trois relations fondamentales que nous connaissons. Et cela me rappelle la parole qui a été donnée par un docteur de la loi qui venait interroger Jésus, et Jésus va le renvoyer à la loi en lui disant, lui posant la question, quel est le plus grand commandement? Et celui-ci, connaissant bien la loi, va aller au cœur de celle-ci en rappelant ce commandement fondamental: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Dieu est un Dieu relationnel, c'est un être relationnel, nous le sommes également. Et le dessein de Dieu est un dessein relationnel. Alors, le défi nous est lancé, dans notre relation à l'Éternel, de rendre un culte à Dieu, pour nous, dans la période que nous sommes en train de vivre, un culte enrichi, renouvelé, avec une fraîche révélation que Dieu peut nous accorder. Dieu est intéressé donc par la relation et pas par tout ce que nous pouvons faire. C'est pour ça je pense quelque part, il nous met à part. Et il est plus intéressé par notre être, par ce que nous sommes et par la relation que nous pouvons ainsi établir avec lui d'être à être. C'est le moment pour ce peuple d'apprendre à vivre sur des bases nouvelles. Dieu devenait, je reviens au peuple hébreu, Dieu devenait tout ce dont ils avaient besoin dans cette période pleine de défis où ils sortaient de leur zone de confort. C'est ainsi que Dieu, dans ce temps-là, va leur donner le tabernacle pour leur apprendre les fondements autant que l'expérience d'être en relation avec lui. Comment venir en sa présence? Et comment s'effectue cette rencontre? Comment elle est rendue possible? Et on pense bien sûr aux différents autels qui étaient là, à l'autel des sacrifices en particulier, mais d'autres autels également qui étaient là pour nous donner vraiment, d'une manière symbolique, les éléments qui nous permettent de rentrer dans la présence de Dieu Et Dieu nous invite à entrer dans cette présence et il a tout préparé pour cela. Comment donc apprendre à être le peuple de Dieu? Comment moi apprendre à être son fils et sa fille que Dieu chérit particulièrement et qu'il veut voir venir plus près de lui encore dans ce temps particulier? On remarque une chose, c'est que le tabernacle a été donné pendant cette traversée du désert. Il n'a pas été donné en Égypte, ni plus tard dans la terre promise. Je crois que cela était relié au fait qu'ils étaient en apprentissage et qu'ils devaient apprendre en même temps que la révélation était donnée par Moïse, accompagnée d'une connaissance dont ils avaient besoin, par exemple connaître l'identité de Dieu, qui est Dieu. Et c'est là où nous sont donnés des noms de Dieu tels que Yahvé Jiré ou alors Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il y avait Jiré, l'Éternel qui pourvoit. C'est ce qu'ils ont expérimenté et c'est une révélation qu'ils ont reçue de Dieu par l'expérience qu'ils en faisaient. C'est important parce que l'image de Dieu est déformée dans l'esprit humain par une influence, celle d'un ennemi, celle de l'adversaire, le diabolos. La Bible l'appelle aussi l'ennemi de nos âmes. Et lui ment depuis l'origine. Il ment sur Dieu, il ment sur nous-mêmes et il nous ment par rapport à notre façon d'entrer en relation aussi avec les autres. Il a créé toutes sortes de confusions, de méprises et nous avons besoin de revenir à cette relation fondamentale qui va éclairer toutes les autres, celle que nous avons avec nous-mêmes et celle que nous avons avec le prochain. Alors, en revenant à ces Hébreux, c'est une bande d'esclaves qui est sortie d'Égypte. Mais Dieu veut en faire un peuple marchant sous son autorité bienveillante, attentive, dans un relationnel étroit, enrichissant, permettant le progrès, la croissance, l'accomplissement collectif et personnel. Dans cette expérience du désert, ils sont en train d'apprendre non seulement à connaître Dieu, mais à le connaître au travers de ses commandements et ses lois, parce qu'elles dévoilent la nature même de Dieu, la nature profonde de Dieu, la pensée de Dieu, mais aussi le cœur de Dieu. Nous voyons ainsi que c'est dans ces moments extrêmes, comme ce peuple le vivait, et comme nous le vivons, nous, aujourd'hui, que Dieu veut apparaître sous un jour nouveau, quand nous sommes prêts à cela, quand nous sommes disponibles, rendus disponibles par la force des choses, que nous sortons également de notre zone de confort, de ce qui nous est familier et facilement accessible. Ce peuple a dû apprendre la flexibilité, la capacité de s'adapter. Il a dû apprendre à composer avec les conditions de vie changeantes et il a dû acquérir plus de maîtrise de lui-même et de maturité aussi. Le caractère de ce peuple était en train d'être formé et de se développer. Malheureusement, ils ont souvent été dans la contestation, l'insoumission ou la rébellion. Mais quelque part, il est fort possible que nous leur ressemblions, nous également. Le désert a été nécessaire. Parce que s'ils étaient parvenus en terre promise trop rapidement, en quelques jours, le résultat sur place aurait été catastrophique. Dieu est en train de permettre l'émergence d'un peuple mis à part, appelé par lui, et il est en train de promouvoir ce peuple et de le conduire vers sa destinée. En arrivant maintenant, nous approchons de la conclusion de ce partage biblique. Je voudrais souligner que nous vivons, et vous le savez aussi bien que moi, dans une saison de grands défis. L'expérience du désert, c'est celle où Dieu devient tout ce dont nous avons besoin. Et cela peut devenir l'expérience la plus enrichissante qui soit pour nous, mais aussi pour l'Église de ce temps, de ce temps que nous sommes en train de vivre. Dieu n'est en rien confiné par quoi que ce soit. Je crois, avec bien d'autres, que la voix de l'Église, porteuse de la bonne nouvelle du royaume, va se trouver amplifiée dans le cœur, la conscience et le cœur de bien des personnes, de nos contemporains, qui sont en recherche et qui s'interrogent, qui vont se tourner vers l'Église ou vers des croyants, vers leurs prochains croyants, pour poser des questions clés, parce que eh bien, cela aura éveillé en eux tout un questionnement par rapport à Dieu. Mais je pense que cette voix de l'Église peut émerger, apparaître, être amplifiée, mise en évidence. Dieu veut fortifier son peuple, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, qui est l'Église. Il peut lui donner un sens de l'unité, même si nous sommes plus rassemblés pendant quelques semaines dans des bâtiments. Eh bien, il peut renouveler ce sens de l'unité et d'une destinée commune en Dieu, comme un texte de l'Écriture nous dit, notre destinée et nos destinées sont dans ses mains. Dans cette période d'incertitude, il y a des choses que nous savons et d'autres que nous ne savons pas. Et ça me rappelle un verset de l'Écriture dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, le verset 26, où il nous est dit, nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières ou comment prier. Parce qu'il y a des moments où nous sommes dans l'incertitude, nous sommes dans le désarroi et on peut même être dans le désespoir ou dans la confusion. Bien sûr, plus loin, l'apôtre Paul dira par contre, il y a une chose que nous savons avec certitude, c'est que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein divin. Puisque nous sommes dans l'épître aux Romains au chapitre 8, nous allons y rester. Et je vous propose la lecture de quelques versets qui nous disent ceci. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le verset que je retiendrai, c'est le verset 19 en particulier. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ces versets, pardon, nous disent que la création aspire, soupire après la paix, après le règne de Dieu. Elle est en souffrance, elle est asservie, elle est abîmée, elle est sous un joug. Il y a un mal qui la domine, il y a une plainte qui monte de la création. Je pense que les écologistes seraient d'accord avec nous jusqu'à ce point-là. Elle attend un monde nouveau, elle attend un temps nouveau. Elle souffre, nous est-il dit, cette création, les douleurs de l'enfantement, comme si elle était en train d'accoucher de ce monde. Les nations et les peuples sont en souffrance, en proie aux conflits d'intérêts opposés. Il y a comme un cercle vicieux de mensonges, de peurs et d'autres phénomènes qui sont inquiétants. Le monde attend de voir la puissance de Dieu manifestée dans la transformation d'êtres humains appelés à être des fils et des filles de Dieu. Il veut voir cette puissance manifestée en chacun de nous. Il veut voir la manifestation d'un autre règne que celui du mal et du péché. et la création souffrante est suspendue à la transformation du cœur de l'homme, de la vie également, et elle a besoin de voir l'expression du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Elle veut voir un autre monde, une autre vie, une issue à sa condition présente. Nous sommes vraiment appelés à vivre comme des fils et des filles de Dieu. Et l'obstacle, la grosse entrave à l'évangile, c'est que nous ne soyons pas vraiment ces fils et ces filles de Dieu et ne vivions pas comme tels. La création va être bénie lorsque, dans sa souveraineté, Dieu interviendra dans l'histoire des hommes pour amener à la lumière son dessein au travers de ceux qui sont considérés comme son peuple, qui seront mis en évidence comme son peuple, le peuple de toutes les alliances qui sont présentes dans l'Écriture, et ceux de l'ancienne alliance comme ceux de la nouvelle alliance. Les deux textes que j'ai utilisés dans ce partage, celui du livre de l'Exode et le texte du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, eh bien, se rejoignent pour nous montrer que Dieu reste maître et souverain du devenir de notre monde, mais en particulier, il est maître de notre destinée, de la destinée du peuple de Dieu. Rien n'est plus important que cela. Alors, vivons-le pleinement et continuons à chercher Dieu dans cette période si particulière que nous sommes en train de traverser. Et j'espère que ces paroles seront un encouragement pour vous à comprendre le dessein de Dieu qui est mis en valeur, non seulement par l'Écriture, mais au travers des circonstances que nous sommes en train de vivre et de traverser ensemble. Que Dieu bénisse chacun à l'écoute de cette parole et surtout dans la méditation personnelle que vous en aurez en relisant ces textes de l'Écriture. Que Dieu vous bénisse.